RTL, il est 22h.
RTL Grand Soir.
Agnès Bonfillon, Christophe Paco.
Bonsoir à tous. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour RTL Grand Soir. Votre rendez-vous d'information entre 22h et 23h sur la première radio de France. 60 minutes pour analyser, découvrir, décrypter, commenter ensemble l'actualité de votre journée à tête reposée. Et sans plus tarder donc, voici les grands titres de l'actualité avec vous Agnès.
Nouvelle réforme dans l'éducation nationale à partir de la rentrée prochaine. La morale laïque sera enseignée aux élèves de primaire, mais aussi dans les collèges et les lycées. Utopiste pour les uns, déterminé pour les autres, Anne Hidalgo rêve d'une capitale sans diesel en 2020. Pour cela, la maire de Paris souhaite entre autres interdire donc le diesel. Accusé d'avoir tué son ex-gendre, car il était certain que ce dernier avait tué sa fille pour vivre avec sa maîtresse, un monsieur de 88 ans, comparé depuis cet après-midi devant les assises de Perpignan. La carte bleue a battu un record ce week-end, c'est peu de le dire. À l'approche de Noël, les terminaux bancaires ont chauffé avec environ, écoutez bien, 430 transactions par seconde samedi.
Ouais, ça fait... Non, ça ne fait pas rêver non plus, ma carte bleue. Les autres grands rendez-vous de votre RTL Grand Soir, comme chaque soir, puisqu'on parle d'économie. Bénédicte Tassard sera avec nous, parler de train moins cher, tiens peut-être, ou plus rapide, avec Capitaine Train, toute nouvelle application. Les sports, avec Yann Boucherie, 22h40, juste après l'écho, on parlera de Ligue des Champions. Demain, le retour de cette prestigieuse compétition, avant mercredi, le Paris Saint-Germain à Barcelone, Monaco, face au Zénith pour une place en huitième de finale. Et puis deux grands rendez-vous, juste après ce journal, 3 minutes pour comprendre. Tout d'abord, avec Thomas Proutot, nous évoquerons le projet de réforme du droit d'asile qui sera présenté demain et discuté à l'Assemblée nationale. Et puis notre invité, on va parler d'économie participative, encore de l'économie. Un appel aux dons pour aller renouveler une belle école avec des CE1, des CE2. Madame le maire sera avec nous tout à l'heure, la maire de Yèble, qui a demandé cette subvention de l'ensemble de sa commune et de généreux donateurs. Elle sera avec nous en direct dans RTL Grand Soir. On termine évidemment cette présentation de cette soirée avec la météo.
Avec la météo et un petit peu moins de pluie. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Les deux. Demain, on devrait retrouver progressivement un temps plus sec dans la plupart des régions. Alors au lever du jour, on aura encore probablement quelques flocons près des frontières de l'Est, jusqu'en plaine peut-être, du côté de la Lorraine ou encore en Alsace. En cours d'après-midi, tout cela disparaîtra. Dans l'Est, en revanche, on conservera encore un ciel gris, alors que dans l'Ouest, on retrouvera de très belles éclaircies. Attention au vent en Méditerranée qui devra atteindre les 100 voire 110 km/h, notamment autour du golfe du Lion. Avantage, le ciel sera dégagé. Côté température, ça baissera un petit peu l'après-midi, 2 à 6 degrés du centre nord et au nord-est, jusqu'à 10 degrés dans l'ouest et le sud, et encore 14 à 15 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfillon.
RTL Grand Soir, votre journal. Pour la première fois de l'histoire de France, un handicapé mental vient de recevoir la Légion d'honneur.
Alors faut-il s'en réjouir ou regretter qu'on ait attendu si longtemps pour distinguer une personne atteinte d'un handicap? En tout cas, on ne peut être que ravi pour Jean-Pierre Crépieux. Ce monsieur de 70 ans a été décoré par François Hollande cet après-midi. Une récompense pour avoir fondé en 1964 l'Arche, une association qui accueille aujourd'hui 1200 personnes. Toutes doivent vivre avec un handicap mental, exactement comme Jean-Pierre Crépieux, donc, que vous avez rencontré cet après-midi, Émilie Beaujard, très fière de cette Légion d'honneur.
Oui, très fier, en costume et nœud papillon, Jean-Pierre Di Pierrot a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive.
Je suis assez fier. Au début, je ne pensais pas être choisi.
Pierrot a reçu sa Légion d'honneur entouré de plusieurs amis, notamment de Michel, qui a vécu de nombreuses années avec lui dans la même communauté.
Ce que tu fais, c'est que tu es une personne très accueillante.
Oui.
Et donc, c'est plus au niveau de l'ambiance qu'il a fait des choses, parce qu'il ne supporte pas d'être inégal. Tu n'aimes pas du tout quand non. Tu es handicapé et tout ça.
Je préfère personne accueillie que handicapée.
Une personne accueillie, mais pas handicapée, c'est là tout le concept de l'association Arche, fondée par 4 personnes, dont Pierrot. Et l'idée est simple, faire vivre ensemble des personnes handicapées avec des valides et ainsi gommer les différences. Jean Vanier, l'un des autres fondateurs.
Ce qui est important, c'est de reconnaître que lui et tous, ils sont importants. Ils ne devraient pas être mis dans des institutions, etc. Et il faut qu'ils trouvent leur place et puis et qu'ils trouvent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses.
Pierrot va maintenant retourner dans sa maison de retraite à Boulogne-sur-Mer, une maison où il est le seul handicapé mental et où il est, encore une fois, très investi dans la vie de l'établissement.
Un grand coup de chapeau à Pierrot, hein, le reportage d'Émilie Beaujard pour RTL. En visite à Prague, Manuel Valls a tenté ce soir de rassurer Bruxelles, qui a pris Angela Merkel ce week-end, demande encore une fois à la France de prendre des mesures pour assainir son économie. Le Premier ministre assure que le calendrier de ces mesures, justement, sera détaillé vendredi prochain.
Former des individus responsables et respectueux des valeurs républicaines. Voilà le but de la ministre de l'Éducation en lançant dès l'année prochaine des cours de morale laïque.
Najat Vallaud-Belkacem a détaillé cette réforme en primaire. Une heure par semaine serait consacrée à cet apprentissage via du théâtre ou des contes. Dans le secondaire, l'approche se ferait davantage lors des cours d'histoire, de philosophie, voire même de sport. Alors l'enseignement de la morale, comment cette nouvelle est-elle accueillie? Étienne Baudu a posé la question à la sortie d'une école à Marseille.
Ça ne me parle pas du tout, parce que je pense que l'éducation civique, ça suffit et qu'il n'y a pas besoin de plus que ça.
Qu'est-ce qu'il y a sous le mot laïque pour vous?
Pour moi, ça ne me parle pas trop, effectivement. C'est un peu abstrait, surtout à l'école, surtout à leur âge.
C'est quoi la morale laïque? C'est une morale qu'ils vont nous faire, peut-être. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont racistes à l'école, mais je pense
qu'il y en a
pas.
Certains, je pense.
Ils se moquent et ça fait de la peine aux autres, et donc ce serait bien d'aller apprendre et de vivre tous ensemble.
Mais alors en même temps, si je te dis laïque, est-ce que tu sais ce que c'est la laïcité?
Non, pas du tout.
Et je pense que si on rentre dans ce débat-là, on n'a pas fini, quoi, parce que chacun va y mettre de sa sauce et que finalement, on va arriver à un gros débat et ça va faire encore plus pour limite et ça va faire des clans.
Vu qu'on a déjà l'éducation civique, morale laïque, faudra bien nous expliquer ce que c'est. Alors, parce que pour l'instant, moi, il n'y a rien qui me vient à l'esprit.
Bon, bah, c'est pas gagné.
Grand débat.
Le Front National emprunte en Russie, car en France, les banques ne veulent pas le faire. En réponse aux révélations de Mediapart, Marine Le Pen a voulu prouver ses propos, a publié ce soir les lettres de refus de 5 établissements français qui n'ont donc pas voulu faire de prêt au FN.
RTL Grand Soir, 22h07, tout pile. Paris sans diesel d'ici à 2020, le projet de la mairie de Paris ne convainc pas tout le monde.
Anne Hidalgo souhaite effectivement en 5 ans faire de la capitale une ville dans laquelle on respire mieux. Fin du diesel donc, un centre de Paris également semi-piéton. Pour contrôler les véhicules, elle utiliserait les fameux portiques qui devaient, rappelez-vous, servir pour l'écotaxe. Malgré de nombreuses critiques depuis que ce plan a été dévoilé dans le journal du dimanche hier, Christophe Bourreau, eh bien Anne Hidalgo donne des exemples très concrets.
Oui, la maire de Paris, en présence de Vincent Bolloré, a présenté aujourd'hui Utilib. Alors c'est un petit utilitaire électrique qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux Autolib. Même principe, on peut les louer. Là, cela s'adresse directement aux artisans et commerçants qui seront touchés par l'interdiction du diesel. C'est donc pour Anne Hidalgo l'une des solutions pour développer les modes de transport propres.
Moi, je souhaite vraiment qu'on donne une priorité aux véhicules électriques dans les différents déplacements et une priorité à l'autopartage, parce qu'on est déjà sur un mode qui est un mode collectif de service public, même si c'est d'un usage individuel. Donc tous ces leviers-là sont des leviers qui vont nous permettre effectivement d'atteindre cet objectif d'éradication du diesel de Paris en offrant des solutions alternatives.
Et cela passe aussi par le grand retour de la pastille collée sur le pare-brise. Toutefois, la difficulté sera de bien cerner les vieux diesels très très polluants, des récents qui eux respectent des normes strictes baptisées Euro 6. Autre question, que va-t-il se passer pour quelqu'un qui vient d'acheter un véhicule à Paris ou en Île-de-France et qui vient travailler tous les jours dans la capitale? Son véhicule sera-t-il bon pour la casse? Pour l'instant, pas de réponse. Enfin, pour beaucoup de professionnels, cela risque de fragiliser un peu plus les emplois chez PSA et Renault qui ont quasiment tout misé sur le diesel.
Aujourd'hui en France, 14 000 bornes sont disponibles pour recharger une voiture électrique. Vincent Bolloré propose d'en installer 16 000 supplémentaires. La balle est désormais dans le camp de Bercy. A priori, le gouvernement qui souhaite atteindre la barre des 7 millions de bornes en 2030 ne devrait pas être contre.
RTL Grand Soir.
Depuis cet après-midi, un homme de 88 ans est jugé devant les assises de Perpignan.
Accusé d'avoir abattu avec son fusil son ex-beau-fils. Il reconnaît les faits qui se sont déroulés en 2010 à Rivesaltes. Mais Jean Bastouille affirme avoir tué Jean-Pierre Mesmer car sa victime était coupable à ses yeux. Il en est certain. 2 ans plus tôt, son ex-beau-fils aurait assassiné sa fille Anne-Marie, la fille du prévenu. Donc, Patrick Tégéraud, vous avez suivi cette première journée d'audience pour RTL. Beaucoup d'émotions et un monsieur très soutenu par les habitants de son village.
Vous savez, quand Jean Bastouille pleure lors de son interrogatoire, la quasi-totalité du public écrase une larme. Ses amis, ses parents sont venus soutenir le patriarche. Et à la première interruption d'audience, l'accusé Jean Bastouille, qui comparait libre, est allé les embrasser.
J'ai beaucoup d'amis.
Vous êtes ému ?
Eh oui, oh oui, ça, c'est sûr. Mais c'est dur, hein, surtout quand on vous rappelle des frais, tous les faits comme ça.
Et le soutien du public semble inconditionnel.
Il se défend, et il a fait, bon, c'est malheureux, mais je pense qu'il n'a pas eu tout à fait tort.
Tout père aurait fait ça.
Tout père aurait fait ça. Quoi qu'il se respecte, et bien, voilà.
Cet après-midi, on a fait connaissance avec cet homme au caractère bien trempé, l'homme d'une seule femme pendant 70 ans et qui n'apprécie pas l'adultère. Un pionnier aussi dans son domaine, l'un des premiers à planter du muscat à Rivesalt. Mais le deuxième mariage de sa fille est son premier vrai souci. Son gendre, Jean-Charles Mesmer, il en parle ainsi. Il avait quelque chose pour faire le mal. Mais le vieil homme regrette d'avoir été mis dans l'obligation de le tuer. Et il affirme que s'il ne s'est pas suicidé, s'il ne s'est pas fait justice, comme il dit, c'est pour voir enfin le procès de Mesmer. Et il enfouit son visage en sanglotant dans un grand mouchoir au carreau bleu.
Compte rendu d'audience signé Patrick Tégéraud, donc pour RTL. Jean-Noël Guérini est relaxé ce matin par le tribunal correctionnel de Marseille. Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône était poursuivi pour détournement de fonds publics.
Allons, on termine ce journal dans RTL Grand Soir avec une carte bleue qui chauffe et qui a bien chauffé ce week-end dans les magasins. Et pas qu'un peu, Agnès, les paiements par puce ont battu le record.
Avec 37 millions de transactions samedi, c'est un bond de 10% par rapport à l'année dernière. Au même moment, Noël approche, certes, Christophe Ponzio, mais avec une moyenne de 430 achats par seconde, le phénomène carte bleue est impressionnant.
Effectivement, on n'avait jamais vu ça, avec des pics à plus de 1500 transactions à la seconde en fin de matinée samedi, comme en témoigne cette vendeuse derrière sa caisse enregistreuse.
C'était énorme.
Pascal vient de Maubeuge, il explique d'abord ce record par l'état de son compte en banque.
Forcément, au début du mois, on a l'argent sur le compte, en fin du mois, après le 20, ça commence à être difficile de sortir la carte.
Et pour ces autres consommateurs flambeurs, leur carte bancaire est leur meilleur ami pour dépenser.
C'est pratique, ça m'évite de promener des espèces sur moi, voilà, c'est le côté fonctionnel.
Surtout qu'il y a un problème qui est grandissant en France, c'est qu'on refuse les billets maintenant avec la contrefaçon.
Du coup, on n'a pas beaucoup de liquide avec nous, le carnet de chèque est de moins en moins utilisé, donc et la carte bleue est plus facile pour des montants qui sont forcément en ce début de mois plus importants que les autres mois avec les cadeaux et les fêtes de fin d'année.
C'est mieux d'avoir sa carte.
D'autant que les commerçants sont de plus en plus nombreux à accepter la carte sans minimum d'achat, ce qui explique aussi ce nouveau record. Autre avantage pour Jean-Pierre, grand-père connecté.
On gère mieux son budget en surveillant sur Internet. Les montants qui sont déjà dépensés.
Le prochain record des paiements par carte est attendu maintenant dans moins de deux semaines, le samedi d'avant Noël, là où les lutins du Père Noël sont traditionnellement les plus actifs.
Pour lui, ce n'est pas du côté de la carte bleue que ça chauffe. En Grande-Bretagne, un élu conservateur s'est fait griller, comme on dit, toper. Nigel Mills fait la une des tabloïds, figurez-vous. On le voit en train de jouer à Candy Crush sur sa tablette en pleine réunion, ça la fout mal. Autant vous dire que faire des brochettes de friandises, même de façon virtuelle, au lieu de travailler, c'est un scandale, hein, oui. Outre-Manche, à tel point que certains parlent déjà de Candy Crush Gate.
C'est une nouvelle application,
Candy,
c'est un nouveau
Crush
jeu,
Gate.
Dans les Rosel, dans tous ces jeux-là.
Ah non, mais on n'a pas,
Candy
les
Crush,
détails.
Candy Crush, ça marche toujours.
Hein. Voilà, exactement.
Allez, 22h13 à venir, dans un instant, 3 minutes pour comprendre. Agnès, on sera avec Thomas Proutot qui va venir nous expliquer le projet de réforme du droit d'asile qui sera discuté demain à l'Assemblée et présenté par le ministre de l'Intérieur lui-même. On va en parler dans une minute et puis ensuite, direction Yèble. Yèble, une petite ville, Seine-et-Marne, sud de Paris. On sera avec Madame le maire dans un instant, avec Madame Tamata Varin pour nous expliquer le crowdfunding. Oui.
Le crowdfunding ?
C'est beau le crowdfunding, non ? C'est la recherche, évidemment, de dons, d'argent pour rénover.
L'appel aux dons, oui.
Voilà, tout simplement, son école. Elle sera avec nous en direct dans 5 minutes, juste après 3 minutes pour comprendre.
RTL Grand Soir.
3 minutes pour comprendre.
3 minutes pour comprendre. Demain, l'Assemblée va donc se pencher sur un texte d'importance concernant l'accueil des réfugiés en France, un nouvel éclairage sur le droit d'asile, piloté par le ministre de l'Intérieur en personne, Bernard Cazeneuve. Thomas Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Thomas.
3 minutes pour comprendre ce projet de réforme sur le droit d'asile. Y a-t-il d'ailleurs urgence à en débattre ?
Il y a urgence, tout simplement parce que le système est saturé, le système déborde. 60 000 personnes ont demandé l'asile en France en 2013. C'est deux fois plus qu'en 2007. l'OFPRA, ce qu'on appelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
C'est bon de le rappeler.
Voilà, c'est l'office qui traite les dossiers, qui rend les décisions. Eh bien, l'OFPRA n'arrive plus à suivre. 30 000 dossiers sont en souffrance. Les délais vont parfois de 2 jusqu'à 5 ans avant d'avoir une réponse. Les hébergements sont précaires. Bref, Bernard Cazeneuve lui-même estime que tout simplement, ça n'est pas digne de la France. Alors, le cœur de la réforme, c'est de moderniser tout cela. L'esprit de la réforme, c'est de mieux protéger eh bien, les réfugiés qui doivent être protégés, que la France estime devoir protéger, et puis aussi eh bien, mieux reconduire, gérer ceux qui n'ont également pas vocation voilà, à rester en France. La mesure phare, et c'est un gros pari, c'est de passer de 2 ans en moyenne pour traiter un dossier à 9 mois d'ici 2017.
Donc c'est concrètement ce que va proposer demain le ministre de l'Intérieur.
Alors voilà, il y a beaucoup d'éléments. Une loi sur l'asile en l'occurrence, et aussi c'est toujours très compliqué. On va prendre des choses simples. Il y a ce qu'on appelle les procédures accélérées. C'est très important, c'est 35%. C'est-à-dire que c'est basé sur la liste des pays sûrs, des pays dont on pense où il n'y a pas de problème de persécution, de problème politique. Il y a une obligation de traiter cela très vite, en 15 jours à l'OFPRA. Simplement, après, on peut faire appel, aller devant la Cour nationale du droit d'asile. Aujourd'hui, ça la prend parfois des semaines, des mois. De genre, désormais, ça sera 5 semaines et ce sera un juge unique.
Toujours plus vite, donc.
Toujours plus vite. Okay. Et là, ça pourra aller très vite pour ces gens dont, a priori, la décision est facile. Donc ça, c'est plus de devoirs pour les gens qui posent cette demande. En contrepartie, le ministre va accorder aux gens qui sont dans cette procédure accélérée de ne pas pouvoir être renvoyés dans le pays d'où ils viennent pendant toute la procédure, jusqu'au bout. Donc c'est un échange de droits et de devoirs. Un autre tout petit exemple, devant l'OFPRA, on pourra systématiquement, un demandeur d'asile, être assisté d'un avocat. Jusqu'ici, ça n'a jamais été le cas. Reste à savoir qui le financera, ça sera les associations, oui. On verra comment est-ce qu'ils feront. En contrepartie, et c'est une partie très importante de la loi, les demandeurs d'asile, on pourra leur imposer leur endroit d'hébergement en France. La loi impose d'héberger les demandeurs d'asile. Dorénavant, on pourra leur imposer d'aller dans une ville donnée pour pas que tout le monde soit concentré en Île-de-France où il y a 55% des demandeurs d'asile.
C'est-à-dire qu'on va aller pareil à Tarbes, à Marseille ou ailleurs.
S'il y a une structure à Tarbes, on pourra leur demander d'y aller, et s'ils ne respectent pas, ils perdront la petite allocation qui touche.
Justement, en parlant d'hébergement, Thomas, est-ce que cela veut dire qu'on va réussir à trouver tous les hébergements nécessaires et supplémentaires?
Ça fait partie du projet de réforme, c'est-à-dire qu'on va mettre des sur la table, on va créer 5000 places encore de plus en CADA, ce qu'on appelle, ce sont des centres spéciaux pour demandeurs d'asile, pour monter à 30 000 places d'ici fin 2016. Alors ça représente presque 50 millions d'euros. Il y aura aussi 50 places d'officiers de protection à l'OFPRA pour aller plus vite. Mais la contrepartie, elle est simple. Si on va plus vite, les gens restent moins longtemps, on paye moins d'hébergement, on leur verse moins d'allocations. Et à l'arrivée, on gagne de l'argent et de l'efficacité.
Thomas Proutot, cette réforme qui a pour objectif, on l'a bien compris, de désengorger le système actuel, d'aller très vite en besogne, va-t-elle susciter des débats houleux au cœur de l'Assemblée demain? Oui, généralement sur les questions, non?
Alors sur ces questions, sont toujours très sensibles. On a entendu certains à l'UMP tirer à boulet rouge sur l'asile et sur la gabegie du gouvernement. Mais le pari républicain de Bernard Cazeneuve, parce qu'il le dit comme ça, il a ce mot à la bouche tout le temps, l'arrêt République, eh bien, c'est de couper l'herbe sur le pied à la droite, à certains à l'UMP et aux associations, avec une réforme qui se veut simplement efficace. Il rappelle que la France, c'est 60 000, un peu plus, demandeurs d'asile. C'est un peu moins d'ailleurs cette année, mais l'Allemagne, c'est 120 000. Donc, tout simplement, en gérant mieux, en dépensant moins d'argent et en raccompagnant les gens de manière un petit peu plus ferme, eh bien, on devrait pouvoir s'en sortir sans créer trop de polémiques et dans l'intérêt de tout le monde.
Merci beaucoup, Thomas Proutot. C'était
Merci,
3 minutes
Thomas.
Pour comprendre ce soir dans RTL Grand Soir.
RTL Grand Soir.
Le site de financement participatif My Major Company ne fait pas que dans la musique. La preuve, un village de Seine-et-Marne lance un appel aux dons pour reconstruire son école. Depuis 30 ans, ce sont des préfabriqués. Avec nous en direct pour en parler, la maire de la commune. Bonsoir.
Bonsoir.
Mariem Tamata Varin, vous êtes en direct donc de votre village, Yèble, qui se trouve en Seine-et-Marne. Alors cet appel aux dons, ce crowdfunding, comme on dit, oui, est-ce que c'était la dernière solution pour faire reconstruire votre école?
C'était la dernière solution honnête qu'on a trouvée. On a fait le tour de toutes les subventions auxquelles une commune avait droit. On a tapé à toutes les portes de tous les parlementaires qui nous ont tous promis une enveloppe sans nous la chiffrer. Et on a imaginé un scénario où on touchait un maximum de ces parlementaires. Et puis on s'est dit que c'était toujours pas assez.
Ça faisait combien au total?
On a besoin au total d'un minimum de 800 000 euros pour reconstruire. Donc avec l'État, la région, le département, nous allons toucher 366 000 euros. Et puis si les parlementaires sont très 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 généreux, on pourrait toucher un maximum de 150 000 euros.
Et on a envie de vous demander, et l'État dans tout ça? Au final, parce qu'une école, c'est quand même l'État qui doit débourser des sous.
C'est ce que tout le monde pense quand on parle d'école. Tout le monde nous dit, l'État, c'est la première réaction que d'ailleurs les étudiants ont eue. Pourquoi on paierait? C'est l'État qui devrait payer l'école. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que sur un budget de plus de 800 000, l'État ne nous apporte que 126 000 euros. L'État à proprement parler, la région 135 000 euros, et le département 105 000 euros. La région apporterait presque plus que l'État.
Oui. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui alors? Il vous manque combien d'argent?
Il faudrait idéalement qu'on arrive à lever 300 000 euros. 300 000 euros, oui, pour pouvoir partir sur un.
Mais simplement pour une école, pour remplacer deux préfabriqués, ça coûte.
Oui, tout à fait. Pour une école aussi petite que la nôtre, dans deux salles de classe, une garderie, une motricité, ça a l'air énorme. Mais
quand je dis petite école, c'est pas péjoratif, hein, ce que dit Madame le Maire, c'est que vous êtes quoi? Il y a 800 âmes, hein, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait. Ouais. On ne sait pas faire moins cher. Hein. C'est la solution la moins chère. Le projet tel qu'on l'a conçu, donc ça sera du semi-industriel, donc c'est pas du parpaing, c'est ce qu'il y a de plus rapide de moins cher aujourd'hui. Et en faisant un calcul, entre une location de bungalow où on n'aurait même pas la place où les mettre, ça nous revient toujours moins cher que de la location sur 15 ans, par exemple.
Alors, pour motiver les internautes, pour les encourager à vous donner de l'argent, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez fait des promesses à partir d'un certain seuil?
Oui, donc il y a plusieurs contreparties qui sont proposées. Donc, par exemple, à partir de 100 euros, on les invite à l'inauguration, un petit peu moins. D'ailleurs, déjà, à partir de 50 euros, il y a des remerciements personnalisés sur les réseaux sociaux. À partir de 50, dans notre journal local.
Et si je donne plus, je donne 1000, par exemple?
Alors, à partir de 1500 euros, les noms sont gravés.
1500, voilà. Qu'est-ce qui se passe, pardon, Madame le Maire?
Nous gravons le nom de la personne sur l'un des nouveaux murs du bâtiment.
Ah, donc, je pense que là, ça y est, vous avez convaincu Christophe.
Bon fillon, moins 1500 sur le compte en banque, mais son nom à Yelbe. Ouais, c'est bien.
Voilà.
c'est bien, Agnès.
Gravé à vie.
À vie, Agnès, bon fillon, ça vous tente?
Mais oui, Christophe Paco, après vous.
Non, mais ça me paraît quand même assez incroyable de faire un appel aux dons.
Mais nous avons eu un contributeur à 1500 euros aujourd'hui. Hein.
Ah, voilà. Par exemple. Non, mais j'imagine que les gens sont très concernés, les habitants, les gens qui habitent aux alentours. J'imagine que vous devez avoir. On l'a vu ce week-end avec le Téléthon, ça n'a strictement rien à voir, mais les gens sont généreux, même en période de crise. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même, mince.
Il faut toujours donner.
On paye des impôts. Pourquoi une école ne pourrait pas être entièrement pris en charge par l'État?
C'est la question qu'on se pose en tant que maire. On se dit, moi, la première surprise, quand j'ai vu déjà, c'est pas ma première opération d'école, mais la première opération où je suis confrontée à une vraie difficulté de financement.
Parce que la première fois, c'était bien passé, vous aviez l'argent pour rénover?
La première fois, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu emprunter. Donc, on avait emprunté la moitié de la somme. Sauf que c'était il n'y a qu'un an. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus emprunter. Et c'est pour ça qu'on en arrive à solliciter tout le monde, des entreprises, des particuliers. Et puis, comme dit Andy, à faire la manche, parce que c'est soit ça, soit la fermeture de l'école. Et puis, pour un village comme le nôtre, ce n'est pas envisageable.
Oui, la solution, c'est sinon, si vous n'aurez... Surtout, on ne vous le souhaite pas. Hein, on espère vraiment que vous allez récolter la somme nécessaire. Mais sinon, c'est la fermeture.
Tout à fait.
C'est une menace de votre part?
Non.
On précise que vous êtes une maire sans étiquette, hein, comme ça au moins c'est plus simple.
Non, je suis une maire sans étiquette. Ce n'est pas une menace, c'est que je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Moi j'en ai parlé longuement à mes concitoyens, en disant surtout aux parents d'élèves, en leur expliquant que j'étais le premier défendeur de l'école et puis de l'apprentissage. Mais au nom de la sécurité de nos enfants, si nous ne pouvons pas reconstruire, il faut fermer.
Et votre prochain projet, parce que tous les ans vous appelez au don, donc allez-y, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour votre école?
Non, déjà...
Une petite cantine? Non.
Écoutez, si on a un généreux donateur qui nous fait un signe rallonge de 210 000 euros derrière, oui, on fait une cantine.
Il a sa statue dans la cour.
210 000 euros avec la statue. Voilà.
Mariam Tamatavarin, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la maire de la commune, hein, de Yelbe, et puis on vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans cette opération de crowdfunding.
Sur mymajorcompagnie.com, école de Yelbe. Voilà, vous pouvez donner, vous avez bien compris. 1500 pour le don gravé. Merci Agnès Bonfillon pour votre don ce soir en direct sur RTL. Merci à vous, Madame le Maire. Merci d'avoir été avec nous.
RTL Grand Soir.
Clic à la une.
Et le retour!
d'Emeric Partenot.
Mais oui, bonsoir Emeric, pour toutes
bonsoir,
les nouvelles du net, ça a buzzé, vous n'avez pas arrêté tous autant que vous êtes,
alors,
je suis
attendez.
Sûr.
Alors attendez, mais attendez, j'ai deux mots à lui dire moi, Emeric, l'élection, attention. Alors vous savez qu'il y a eu l'élection de Miss France, hein, samedi soir sur TF1,
oui.
Et puis alors ça continue sur les réseaux sociaux, sauf que moi je suis allée voir le compte d'Emeric.
Vous allez voir Mister France vous ?
Non mais Emeric n'a pas arrêté de tweeter samedi.
Pas arrêté.
Il a regardé Miss France en direct. Et d'accord. Tweeter en direct, on avait tous les commentaires d'Emeric, c'était
ça reste,
génial.
Ça reste très drôle quand même, ah oui. Il faut le regarder. Voilà.
Ah, c'était super. Allez sur le compte d'Emeric Partenot.
Oui, allez-y, vous allez guetter.
Et là, ça continue donc de tweeter sur Miss France.
Bien sûr. Bah, on va commencer par quelques chiffres, histoire que vous compreniez bien l'importance de cette élection.
Mais oui.
Samedi soir, on a dénombré près d'1,5 million, j'étais pas tout seul, de tweets sur le sujet avec le mot-clé, le hashtag Miss France 2015. C'est presque 3 fois plus que pour l'élection de Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Donc ça va crescendo. Mais si on continue d'évoquer l'élection encore aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Alors d'abord, la gagnante Camille Cerf continue sa tournée victorieuse dans les médias, ça c'est classique. Mais si l'on parle de Miss France, c'est parce qu'il y a, encore une fois, une polémique sur qui devait gagner. Les défenseurs de Miss Côte d'Azur et de Miss Tahiti
dont
sont respectivement...
Je les comprends, Voilà, moi, je suis très Tahiti Côte d'Azur, moi aussi.
J'ai vendé Miss Côte d'Azur, voilà.
Ah, mais je comprends.
Troisième place, Miss Tahiti deuxième place. Mais ces gens-là, ils sont en colère. Alors, Miss Côte d'Azur était de loin la favorite sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je n'étais pas seul.
C'est que les Nordistes sont plus rapides sur les votes.
Il a préféré.
Ah, c'est que le public a préféré, d'accord.
Le public l'a préféré. 32 000 tweets pour elle, loin devant les quelques 22 500 de la gagnante originaire de Nord-Pas-de-Calais. Mais manifestement, ce n'est pas Twitter qui décide.
Ah bah non, il y a un
jury. Et pour Tahiti, c'est vraiment la malédiction. Pour la troisième consécutive, Miss Tahiti termine à la deuxième place du concours de beauté. Les internautes crient au scandale. C'est pas possible de rivaliser quand la Polynésie compte que 280 000 habitants, alors que le Nord-Pas-de-Calais compte 4 millions d'habitants. Et tous les arguments y passent. Du coup, il y a eu un problème dans la transmission des SMS. Organiser l'élection à Tahiti serait trop cher. Donc, du coup, on manipulerait les résultats. Bref, c'était la foire au fantasme sur Twitter.
J'apprécie Tellier, moi.
C'est ça. La chef des Miss Sylvie Tellier, elle s'est fendue d'un tweet annonçant le résultat du coup de l'élection, avec tous les chiffres comme ça, comme pour une vraie élection, dans un effort de transparence. Le problème, c'est que pas sûr que tout ça satisfasse les amateurs de la théorie du complot.
Allez, cliquez à la une maintenant avec un peu de musique. Emeric, vous nous avez parlé d'un classement, visiblement qui traîne sur RTL.fr et qui nous fait frissonner d'avance.
Oui, c'est vous qui frissonnez d'avance. Le site de streaming suédois Spotify.
Il y a Julien Célier qui vient d'arriver dans le studio, qui prépare les essentiels, il va frissonner.
Comme par hasard, il arrive à ce moment-là.
Bonsoir, Julien.
Sur le site de streaming Spotify, vous pouvez écouter toute la musique, vous savez, qui vous passe par la tête.
Oui.
Le site vient de publier un classement. Le classement des chansons les plus écoutées pour faire l'amour.
Voilà,
bien sûr.
Enfin, un sujet intéressant. Oui.
Alors, selon vous, qui arrive à la tête de ce classement ? C'est un classique, attention, un pas original pour un sou. Aujourd'hui, un couple sur deux essaie désespérément de reproduire la chorégraphie
c'est un grand slow
lors
connu.
De son mariage.
Ah, c'est la Dirty Dancing. Le porté de Jennifer Grey.
Ça, ça donne envie de faire l'amour, ça ? C'est quand on fait l'amour ou c'est.
C'est quand on fait l'amour. Parce qu'on écoute pendant qu'on fait l'amour.
C'est romantique.
Ouais.
C'est romantique,
ça. Ça bouge vachement, quoi. C'est fait pour danser.
Il y a pas un peu de Marvin Gaye, du Barry White.
Il y a du Barry White.
Sexual healing.
Néanmoins, plus surprenant, à la troisième place, on entend ça.
Le boléro de Ravel.
Ah ça oui. Ah ça je comprends.
C'est un peu militaire quand
parce
même.
Parce que c'est long, on prend du temps. Préliminaire.
Là, c'est les préliminaires pendant quelques heures.
Voilà. En train de faire,
dans le top 20, on trouve un seul titre français. C'est du Serge Gainsbourg.
Ah, mais ouais, ça d'accord. Ouais. Ah, c'est pas Dirty Dancing ça.
Ah, oh, bah oui, là non, là oui.
D'accord.
Bah oui.
Je fais et je viens. Ouais, c'est Gainsbourg.
Ça reste classique. Hein,
c'est bien.
On sait où on s'en est. Et le plus surprenant, ça reste à la 20e place. Très surprenant.
Mais non.
Non,
pas Star Wars. Mais non.
C'est pas là-dessus.
Si, 20e place. Des gens font l'amour sur le thème de Star Wars de John Williams.
Julien Célier.
Voilà.
Je suis courageux. Là, on dirait que ça vous fait quelque chose.
Oui.
J'ose pas imaginer.
De Chewbacca.
C'est horrible en plus.
Chewbacca.
Ah oui, Chewbacca.
Ma nièce Bonfillon, mais revenez sur Terre.
Regardez.
Descendez des étoiles.
Tout le monde est rouge. Tout le monde a envie là.
Allez, 22h30. On termine avec le top 3. Merci beaucoup, Emeric. Vous nous donnez le top 3 sur RTL.fr.
Bien sûr, premier article. Nicolas Sarkozy aurait dû renoncer à sa retraite de président de la République. C'est Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, qui l'explique. Deuxième article. L'édito d'Alba Ventura ce matin, Manuel Valls. Passe à l'offensive. Et enfin, je suis sûr qu'elle vous avait manqué. Nabila, toujours dans l'attente,
toujours
éventuelle
Libération. Voilà.
Merci beaucoup, Émeric. Tout le classement. On va parler de Georges Lang après 23h hein, pour sa collection. Une collection spéciale peut-être ce soir. On va monter le voir après 23h tout à l'heure. Salut Georges. 22h31.
22h, 23h, RTL Grand Soir.
Christophe Paco, Agnès Bonfils.
Et Julien Cellier pour l'essentiel de l'actualité.
Manuel Valls détaillera vendredi l'agenda des réformes 2015-2016. Il faut dire que Bruxelles met la pression. Cet après-midi, les ministres des Finances de la zone euro ont demandé des mesures supplémentaires. Le week-end dernier déjà, Angela Merkel avait réclamé davantage d'efforts. Le chef du gouvernement lui a d'ailleurs répondu ce soir en déplacement à Prague.
Quand j'avais rencontré la chancelière allemande, je lui demandais rien. Elle avait dit qu'elle était impressionnée par les réformes que nous avions engagées et que nous étions en train d'engager en France. Et donc, moi, j'en reste évidemment à ces propos.
Elle a emprunté 9 millions d'euros à une banque russe. Marine Le Pen se justifie ce soir. Comme promis, la patronne du FN publie les lettres de refus de près de 5 établissements, dont 4 français. Jean-Noël Guérini relaxé, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, était poursuivi pour détournement de fonds publics. Il reste mis en examen dans 2 autres affaires de malversation. Yamila Benguigui renvoyée en correctionnelle, l'ex-ministre de la Francophonie, est soupçonnée d'avoir tronqué des déclarations d'intérêts et de patrimoine entre 2012 et 2014. Vincent Bolloré propose ses services. Son entreprise veut installer partout en France 16 000 bornes de recharge pour les voitures électriques. Le gouvernement qui souhaite atteindre 7 millions de points de charge en 2030. Bercy va donc examiner le dossier du PDG, un PDG qui défend son projet.
L'objectif, c'est de mailler le territoire et qu'il n'y ait pas une borne distante de plus de 40 km d'un point où vous êtes. Nous croyons que les gens, au fur et à mesure, utiliseront des voitures électriques et comme ils utiliseront des voitures électriques, ils les rechargeront. Et donc, nous pensons qu'à terme, nous rentabiliserons notre investissement, comme tout ce qu'on fait.
À Bosnie, Finlande, Israël, Pologne, Russie, ce sont les adversaires des Bleus pour les poules de l'Euro 2015 de basket, tirage au sort abordable qui a eu lieu aujourd'hui. Enfin, des nouvelles rassurantes de Pelé. Il sortira de l'hôpital demain au Brésil. La légende du foot y était soignée depuis une quinzaine de jours pour une infection urinaire.
Wall Street finit en baisse. Ce soir, le Dow Jones perd 0,59%, le Nasdaq 0,84%.
RTL Grand Soir, l'écho 2.0, Bénédicte Tassard.
Les infos de l'écho 2.0 avec vous, Bénédicte Tassard, bonsoir.
Bonsoir.
On débute avec un hommage.
Un hommage à Ralph Baer, l'inventeur de la première console de jeux vidéo, qui est décédé le week-end dernier aux États-Unis à l'âge de 92 ans. Il avait créé un système pour afficher un jeu sur un écran TV. Odyssey, la première console au monde, proposait un jeu de tennis qui avait inspiré le célèbre Pong sur Atari.
Ah, oui.
Je sais pas si vous avez eu ça, là.
Pong, ah si, si, non, oui, bien sûr. Enfin bon, ça date. Hein.
Oui, ça date, voilà.
Encore une grève chez Amazon en Allemagne.
Le conflit dure depuis près de 2 ans maintenant. Amazon, ce sont 9000 personnes en Allemagne, dans 9 centres de logistique. C'est le plus grand marché pour l'entreprise de vente en ligne après les États-Unis. Nouvel arrêt de travail donc dans le centre logistique de Badersfeld. À 15 jours de Noël, c'est délicat, mais les syndicats dénoncent les conditions de travail et réclament une augmentation de salaire.
Et puis enfin, pour terminer, Bénédicte, les fans du web ont rendez-vous demain à Paris.
La conférence Le Web ouvre donc demain et pour 3 jours sur le thème un peu abstrait, les tendances d'aujourd'hui, les opportunités de demain. Mais c'est le rendez-vous incontournable des startups et du numérique. Pour la 11e année consécutive, Loïc Lemeur rassemble 200 startups, mais aussi toutes ces entreprises en forte croissance en train de passer à l'échelle mondiale, comme Airbnb, Blablacar, Weezings, Parrot, Sigfoq.
Mais dites donc, on en a beaucoup reçu, nous, hein, ici.
Oui, oui, ça commence à faire beaucoup. Une session entière sera consacrée aux drones, une autre sur le futur de l'esprit avec des spécialistes du cerveau, et une troisième sur la santé du futur. Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, y fera un tour jeudi.
L'invité Écho 2.0.
Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Jean-Daniel Guyot.
Jean-Daniel Guyot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Capitaine Train, un site de vente de billets de train en ligne. D'abord, rappelons que les billets de train, il est possible de les acheter ailleurs que sur le site voyagesncf.com ou dans une agence de voyage.
Voilà, nous, en fait, on est une agence de voyage qui vend en ligne. Donc, effectivement, on peut acheter ces billets de train ailleurs que sur le site de l'opérateur.
C'est-à-dire que maintenant, il y a ouverture à la concurrence. Il n'y a plus le monopole des billets de train à la SNCF. Depuis quand ?
L'autorité de la concurrence a condamné la SNCF en 2009 parce qu'elle s'était attribué le monopole de la vente en ligne. Et aujourd'hui, effectivement, d'autres agences de voyage peuvent vendre en ligne. Et aujourd'hui, on est la seule.
Alors, une question me brûle les lèvres, Capitaine Train. C'est moins cher chez vous ?
Ça peut être moins cher parce qu'on arrive à faire des combinaisons d'offres. Alors si vous prenez un seul opérateur, évidemment, il ne sera pas moins cher que lui-même. Ça, sur un Paris-Lyon, on ne va pas faire de miracle. Mais par contre, on arrive à combiner des offres, à combiner un SNCF et un IDTGV, un TGV avec un Ouigo ou avec un nouvel opérateur comme Tello.
Alors Tello, c'est franco-italien. Ça fait des trains qui viennent d'Italie ou qui arrivent en Italie. C'est Transdev et Transitalia. Et là, vous avez accès au billet de train de Tello.
Exactement.
Chose qu'on ne trouve pas sur voyagesncf.com.
Exactement. Nous, on est le distributeur d'autres opérateurs en Italie. On a deux opérateurs, Trenitalia et NTV, et en Allemagne, Deutsche Bahn. Et quand ils vendent des trains qui opèrent aussi en France, on est capable de les vendre et de les combiner avec ceux de la SNCF.
Moi, je me suis inscrite ce matin, c'est ce que je disais à notre invité Jean-Daniel Guyot tout à l'heure. Je me suis inscrite. Alors d'abord, j'ai été surprise par la sobriété du site. Toutes les pubs, pas du tout.
C'est bien.
Parce que, effectivement, le but, c'est de rester le moins longtemps possible sur votre site, c'est ce que vous me disiez.
C'est l'efficacité.
Exactement. C'est ça. Nous, on est là pour que vous partiez le plus rapidement du site avec votre produit et que vous ayez le tarif qui vous convient très, très rapidement.
Et alors, vous avez trouvé ?
Voilà, non. Alors, moi, effectivement, c'était Paris-Aix en Provence TGV. Effectivement, là, ce sont les mêmes prix que la SNCF.
D'accord, voilà. Mais si on veut faire un Paris-Milan ou Florence...
Mais même sans faire ça, vous pouvez faire des combinaisons, c'est ce que disait monsieur, c'est-à-dire...
Sur le territoire français.
Sur le territoire français. Vous avez des TGV plus
par exemple,
des
neige,
corail,
Paris, voilà. Chambéry, Bourg-Saint-Maurice, Moutier, enfin toutes les Alpes, quoi, c'est ça.
Mais vous prenez quand même une commission. Vous en vivez quand même.
On prend une commission qu'on négocie avec chaque opérateur. Donc ça, pour le client, c'est totalement transparent. Il va pas voir un prix différent. Ça va être on aura toujours le meilleur prix. Et quand il s'agit de Paris-Aix, par exemple, effectivement, on ne peut pas avoir de meilleur prix puisqu'il n'y a qu'un opérateur et pas de concurrence. Mais dans ce cas-là, on vous apporte une simplicité, une rapidité, un service client derrière, une réactivité maximale.
Vous avez combien de clients aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a 460 000 utilisateurs. Quasiment, on va atteindre
par
le demi-million
qui
sont là sur la plateforme et qui utilisent le service.
Et voyagesncf.com pour qu'on puisse comparer ?
Là, c'est l'intégralité du marché, puisqu'il y avait un monopole. Il y avait 1 million de voyageurs par an, donc voilà, ça doit être à peu près ça.
Donc vous avez quand même une belle marge de manœuvre.
Oui, il y a pas mal.
C'est ça qu'il faut voir.
Exactement, et on est au niveau européen, donc si pas que en France. Ouais.
Quels sont vos rapports avec la SNCF ?
Ils sont très bons.
Oui,
Ils sont très bons. Alors, on a commencé par se battre avec eux. Mais aujourd'hui, ils ont compris le projet. Ils ont compris qu'on leur apportait un nouveau canal de vente, qu'on leur apportait des ventes, des clients, une nouvelle façon de faire. Et donc, tout va pour le mieux. On est plutôt content de faire du business ensemble.
Et ce sont des billets exclusivement à imprimer sur votre site ? Ou est-ce qu'on a un ticket SNCF
à
retirer ?
La France est un tout petit peu spécifique, contrairement aux autres pays européens. On a encore des billets papier. Et dans ce cas-là, quand c'est. Alors, on a 20% à peu près de billets papier. Quand c'est les billets papier, vous pouvez les imprimer à la borne. En garde. Ouais. Et donc,
Si on passe par votre site.
Même si on passe par notre site, oui.
Votre actualité, c'est votre levée de capital, près de 5,5 millions d'euros. Une opération réussie, vous avez trouvé des investisseurs, dont le fameux Xavier Niel. Il s'est intéressé à votre projet depuis longtemps ?
Il s'intéresse depuis longtemps. Ça a été même le premier à nous solliciter il y a très longtemps, en 2011, quelque chose comme ça. On avait décidé de prendre d'autres investisseurs, mais aujourd'hui, on a discuté avec lui. On a discuté, le principal, c'est quand même Alven Capital qui nous rejoint.
Ouais.
Et on a aussi Pierre Bonelli, qui est le fondateur de Liligo qui est un gros acteur du voyage aussi.
L'avenir, c'est le mobile ? Vous voulez passer par les téléphones, les smartphones, les tablettes ? Pour conquérir vos clients ?
Nous, c'est déjà 35% de nos ventes, en fait, aujourd'hui. Tout est là, même sur l'application. Ce n'est pas un sous-produit. L'application sert à acheter ses billets, à les annuler, à voir tous les tarifs. On peut tout faire dessus. On peut surtout montrer son billet à son contrôleur. On a fait la première application de tourisme sur les montres. Donc, on est capable de montrer au contrôleur sur la montre.
Sur les montres connectées ?
Oui.
Wow. Il faut acheter la montre connectée maintenant.
Voilà, quelque chose.
Petit Papa Noël.
Merci Jean-Daniel Guyot. Vous êtes à la tête de Capitaine Train et on peut retrouver votre interview en son et en images sur le site rtl.fr.
Merci beaucoup.
RTL bouge.
RTL grand soir.
RTL sport.
Bonsoir Yann Boucherie.
Bonsoir Christophe.
Yann.
Bonsoir Agnès.
Veille de Ligue des Champions en football pour l'AS Monaco avant son tout dernier match de poule. Ce sera demain soir 20h45 face au Zénith. Un petit nul suffit au Monégasque pour disputer les huitièmes de finale. Dernières infos au pied du rocher avec Mickaël Lefebvre là-bas en Principauté. Et puis a eu lieu tout à l'heure le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, prévu début janvier, 3 et 4, comme le veut la tradition. des petits poussés, des grands chocs à venir. Explication avec Yann Boucherie et Ludovic Mandecker qu'on fait plus tirage au sort également pour le basket. C'est notre Euro, à nous. L'Euro 2015, ce sera chez nous. Tirage au sort pour l'équipe de France. On va savoir si ça va être compliqué ou non. Avec Yann Boucherie toujours et Nicolas Jean-Giraud.
RTL Grand Soir.
Mais tout de suite, l'handball, puisque ça vient de débuter, championnat d'Europe pour notre équipe de France.
Oui, une entrée en matière poussive pour les Françaises qui ont dominé difficilement la Slovaquie 21-18 ce soir à Osijek. Les Bleus étaient même menés 9-7 à la mi-temps par l'adversaire présumé le plus faible de la poule. Il a fallu que le sélectionneur Alain Porte donne de la voix.
Très poussive, avec des joueuses crispées au possible, tout ce qu'on voudrait pas voir, quoi. Attends, je peux vous dire que je fais tout pour les libérer, mais j'avais l'impression qu'elles jouaient avec un ballon de 3 kilos en première mi-temps, incapable de marquer le moindre but. Alors heureusement, défensivement, on était à peu près compact et bien dans les duels. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme cadeau? Beaucoup trop d'approximations parce que les filles étaient crispées, quoi. Donc ça reste entre nous, mais j'ai fait ma colère depuis que je suis arrivé ici à la mi-temps, quoi. Depuis que je suis en poste, c'est la première fois que je me mets en colère comme ça. Je ne suis pas très fier, mais peut-être qu'il fallait ça pour qu'elles réagissent un petit peu, et c'est ce qu'elles ont fait en deuxième mi-temps quand même. J'espère que maintenant elles vont se libérer. Bon, a priori, c'est bien parti pour qu'on soit au second tour. Contre la Serbie et le Monténégro, on a plus à gagner qu'à perdre. Et ça, j'espère que dans les esprits, ça va les libérer.
La colère d'Alain Porte, le sélectionneur de cette équipe de France féminine de handball. La France qui affrontera la Serbie mercredi, ce sera à 18h. Les Serbes qui ont été battus aujourd'hui par le Monténégro, 22-19.
On passe au foot avec une rencontre décisive hein, demain soir pour Monaco en Ligue des Champions.
Oui, Monaco qui pour se qualifier en huitième de finale de cette Ligue des Champions ne doit pas perdre contre les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Au classement, pour l'instant, on le rappelle, Leverkusen possède 9 points, Monaco 8, le Zénith 7 et Benfica 4 points. Avec nous en direct, Mickaël Lefebvre, le correspondant de RTL sur la Côte d'Azur. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Mickaël. Bonsoir à tous.
Bonsoir Mickaël.
Alors on peut le dire Mickaël, l'ASM va vivre peut-être demain le moment le plus important de l'ère Ribolovlev.
Oui, certainement. Hein. Comme vous l'avez dit, l'équation elle est simple pour l'AS Monaco. Ne pas perdre contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Et Monaco ira en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce n'est plus arrivé depuis l'année 2005. Il s'était fait éliminer à ce stade-là de la compétition.
Donc, après leur finale, quoi.
Après, hein, l'année d'après, juste l'année d'après leur finale. Donc c'est vrai que c'est très très important pour l'AS Monaco. Monaco qui peut même lorgner sur la première place hein, du groupe également.
Oui, parce qu'on le rappelle, Leverkusen joue à Benfica demain soir.
En même temps, 20h45.
Exactement, hein. Et on sait ô combien c'est important de finir premier du groupe parce qu'après on reçoit en huitième de finale lors du match retour, donc c'est très important.
Bah, ça va mieux, ils vont jouer la gagne.
Ouais,
jouer nul quand même.
Bah, c'est par principe, oui. Ils vont jouer, c'est ce qu'ils nous disent. En tous les cas, on a rencontré en conférence de presse tout à l'heure Valère Germain et c'était un petit peu le discours que tenait l'attaquant de l'AS Monaco.
Et ben, on l'écoute.
C'est sûr que demain il y aura beaucoup d'émotions, on a envie de faire un grand match, l'objectif du club depuis le début de saison est de se qualifier pour les huitièmes et voilà, il nous faut qu'un point et je sais qu'on va réussir et qu'on va réussir à s'imposer, à se qualifier. Je pense qu'on va essayer d'aborder ce match en voulant gagner, certes il nous faut qu'un point mais si on reste acculé derrière et qu'on se prend un but à la fin, on va énormément s'en vouloir, donc il va falloir jouer pour attaquer, pour gagner, leur mettre la pression parce qu'on est à domicile et je pense qu'on arrivera à le faire si on aborde le match comme ça.
Rapidement, Mickaël, un petit mot sur la compo, les absents, les présents. Ouais,
les absents, Ricardo Carvalho est suspendu, donc il va falloir revoir un petit peu la défense centrale. Je pense que Jérémy Toulalan et Abdennour vont jouer en défense centrale. Toulalan va reculer. Kurzawa et Kondogbia sont toujours blessés. Et l'homme en forme du moment côté monégasque, c'est bien sûr Dimitar Berbatov. 3 buts sur les 2 derniers matchs en championnat. Monaco qui n'a marqué que 2 buts hein, en Ligue des Champions pour le moment. Ça serait un record si Monaco se qualifiait en ayant marqué que 2 buts lors des phases de poule de Ligue des Champions.
Ouais, on rappelle qu'ils peuvent quand même terminer premier de leur groupe, c'est extraordinaire, avant que le PSG essaye de prendre cette première place également. Ce sera mercredi à Barcelone. Juste, le Zénith, c'est bien le club d'André Villas-Boas qui aurait pu signer à Monaco aussi. Hein.
Oui, il y a eu aussi l'attaquant de cette équipe du Zénith, Garay, le défenseur, des noms voilà, qui avaient été avancés aussi pour jouer à Monaco.
Vous serez en fil rouge avec nous demain soir, évidemment, Mickaël Lefebvre, pour la fin de la rencontre dans RTL Grand Soir, avec beaucoup de plaisir. On souhaite le meilleur, hein, évidemment, à l'équipe de la Principauté. Un petit nul de la qualif et la victoire, Agnès Bonfillon. Une place en huitième de finale, quasiment au printemps prochain de la Ligue des Champions, quand même. C'est formidable. Hein. La Coupe de France, merci Mickaël. Hein. La Coupe de France, ce soir, on a tiré au sort les 32e de finale.
Oui, qui seront marqués par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. 4 affiches, justement, opposeront des clubs de l'élite. Montpellier PSG, les Héraultais qui avaient éliminé les Parisiens en 16e de finale.
Rennes l'an passé au Parc des Princes. Oui, vous aviez raison, Monsieur Paco. Également Bordeaux, Toulouse, Lens, Lyon, Bastia, Lille. Tandis que Marseille, le leader de la Ligue 1, ira sur le terrain de Grenoble. Et puis RTL, vous le savez.
Petits. Moi, j'aime bien
ouais,
les
on a toujours une tendresse particulière à RTL pour les petits poussets de la compétition. Eh bien, pour ces 32e de finale, ce seront les Martiniquais du club franciscain qui évolue en district, le 7e niveau. Ils affronteront le FC Nantes à la Beaujoire. Éric Littorier, le président du petit club amateur, au micro de Ludovic Van de Kerkhove.
Nous sommes l'équipe, si vous voulez, le petit poussin de la Coupe de France, certes, mais bon, on va jouer notre match sans pression. On va essayer de faire plaisir au public martiniquais pour voir quand même si on va jouer un bon football. Dans le foot, par contre, vous savez, tout se joue sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un tirage rêvé pour certains martiniquais, mais en tant que président, moi, non. J'aurais préféré, comme je vous dis, jouer contre une équipe à notre portée pour essayer de faire mieux, parce que passer un tour encore, c'est quelque chose d'historique pour un club de division d'honneur. Et jouer contre Nantes, ça sera vraiment, vraiment, vraiment difficile.
Et les matchs sont prévus le premier week-end de janvier, 3 et 4. Il y aura juste 4, un petit souci pour le PSG qui joue à Montpellier parce que, eh bien, il y a du rugby. Vous savez, on joue sur le stade de rugby de Montpellier. Donc, ce sera peut-être décalé au 5. On verra le calendrier.
22h, 23h, RTL Grand Soir.
Tirage au sort très favorable, hein, Yann, pour l'équipe de France de basket concernant l'Euro 2015 qu'elle disputera à domicile.
Oui, les Bleus sont tombés avec la Bosnie, la Finlande, la Pologne, Israël et la Russie en phase de poule. Seule la Russie, médaillée de bronze au JO 2012 et à l'Euro 2011, semble en mesure d'empêcher les Français de finir premier du groupe. En revanche, en huitième de finale, ce sera costaud parce que les Bleus vont croiser avec le groupe B. Et là, il y a l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Serbie et la Turquie notamment. Le sentiment sur ce tirage au sort du sélectionneur tricolore Vincent Collet au micro RTL de Nicolas Georgerot.
Il faut séparer deux moments dans la compétition. Le premier tour, je pense que le groupe est plutôt clément, hormis la Russie qui est une équipe qui peut prétendre gagner cet euro. Derrière, on a des équipes qui sont plus abordables. Mais par contre, on va croiser avec un groupe B, qui est le groupe de la mort, dans lequel il y a cinq équipes de très haut niveau qui vont se battre pour obtenir une des quatre premières places. Les deux autres grands favoris de l'euro, que sont la Serbie et l'Espagne, sont dans ce groupe-là, avec en plus l'Allemagne qui reçoit, la Turquie et l'Italie qui sont des équipes également très fortes. Donc le huitième de finale sera forcément un match de tous les dangers et ça nous oblige quasiment à terminer aussi premier de notre groupe. Le fait d'avoir de l'autre côté de très fortes équipes, il faut au moins qu'on soit premier pour jouer le quatrième de ce groupe-là.
Alors les Bleus disputeront leur première phase à Montpellier. Le tour principal, lui, se déroulera au Grand Stade à Lille. Mais avec quelle équipe de France? Parce que Parker et Boris Diaw seront là. Mais quid de Joachim Noah? Voilà, c'est la grande question. Oui. Le pivot des Bulls n'a participé qu'à une compétition avec l'équipe de France. C'était l'Euro 2011, ponctué par une médaille d'argent. Eh bien, le DTN tricolore Patrick Bisley a rencontré Joachim Noah récemment aux États-Unis et il lui a mis un petit peu la pression.
J'avais été le voir au All-Star Game au mois de février dernier. Je suis allé le voir il y a 15 jours. Simplement être porteur du message de Vincent, du projet de la fédération, de notre projet collectif, lui expliquer voilà, qu'on avait des grandes ambitions, qu'on allait jouer en France. Et surtout le titiller avec les JO, puisqu'il m'a toujours dit que c'était quelque chose qui l'excitait. Donc je lui ai expliqué que pour aller aux JO, il était obligatoire d'être en 2015... à la qualification, donc je crois que c'est clair, il a compris le message, voilà, et puis je dois aller le revoir en janvier à l'occasion du match contre les Spurs, et on entretient ce relationnel. Après, je lui pose pas la question est-ce que tu seras là, parce que Joachim, on le connaît. Si on pose la question, on n'aura pas de réponse, parce que, contrairement à d'autres joueurs, il vit le moment présent, donc lui, pour l'instant, il a 55 matchs assurés, il a des petits bobos, donc il est pas dans ce démarche-là. Par contre, qu'il soit au courant de notre projet, ça me paraissait important.
Et voilà, Patrick Bisley, le DTN, qui met la pression quand même sur Joachim Noah. Un résultat de Pro A ce soir, Nancy recevait l'ASVEL. Et bien, victoire des Lorrains, 72-66. Et puis, très vite, en foot, match amical pour l'équipe de France de football contre les Pays-Bas. Ce sera en mars 2016.
Avec le Brésil
ouais, juste avant l'Euro. Mars 2016, hein, juste avant l'Euro, quelques mois avant l'Euro.
Belle nouvelle, vous connaissez votre géographie, les continents, les anneaux, 5 continents, 6 continents.
Vous dites 5 ou 6, Yann? 5 ou 6 continents.
5 ou 6 pour vous.
Si c'est les anneaux, c'est 5.
Voilà, voilà, ouais. Les sportifs, c'est ça, 5. Ouais. Amérique, Europe, Asie, Afrique, Océanie. On rajoute et Antarctique pour beaucoup. Oui. Et nous, on va parler du 7e continent.
Exactement.
Et ça se passe sous l'eau. A tout de suite.
RTL Grand Soir.
Signé Agnès.
Signé Agnès, ce soir, on va terminer RTL Grand Soir avec un grand coup de cœur.
Coup de cœur, plutôt... Oui. coup de colère parce que j'ai découvert, alors cela dit c'est très très intéressant, je savais que les océans étaient des poubelles, l'homme ne fait pas grand chose pour préserver la planète, mais alors là, à ce niveau-là, je ne savais pas.
D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains.
Tu leur voilà, pensez aux générations futures. Et Michel ce soir, nous allons parler du 7e continent avec Patrick Dexon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et d'être venu justement nous parler de cette pollution plastique dans les océans.
On a découvert ça il y a une quinzaine d'années et effectivement ça passe complètement inaperçu aux yeux du grand public. On est en train de remplir nos océans de plastique et c'est une vraie catastrophe écologique.
Vous avez pris conscience de ça en faisant quoi ?
Alors en fin de compte, je traversais l'Atlantique à la rame, je partais de Dakar pour rejoindre Cayenne et en plein milieu de l'Atlantique, j'ai percuté un pare-choc, un spoiler de voiture et donc ça m'a interrogé, j'ai voulu savoir où finissaient ces déchets qu'on rencontrait dans les océans et donc j'ai découvert un peu accidentellement qu'on parlait aussi de 7e continent, une association américaine, Algalita, et effectivement Charles Moore, un navigateur américain qui avait découvert ça au début des années 2000.
Ça représente un continent.
Oui, effectivement, ces déchets qui sont lâchés dans la nature, suivent les eaux pluviales, se retrouvent dans les rivières, dans les fleuves, ils finissent dans les océans. Une fois que ces plastiques sont dans les océans, ils suivent les courants océaniques. Et on sait que les courants océaniques forment des tourbillons, ce qu'on appelle des vortex, des gyres, et effectivement rassemblent tous ces plastiques au milieu. Alors quand on parle de continent, c'est pas un continent solide, faut bien le comprendre. On l'appelle continent de par la superficie des zones polluées. C'est 6 fois la France dans le Pacifique.
Dans le Pacifique, il y a 6 fois la France en déchets. C'est un tapis de déchets plastiques.
Alors, c'est pas un tapis. On appelle ça de la soupe de plastique. Le plastique se désagrège une fois qu'il est dans l'eau. Il se photodégrade, il se réduit en petites particules. Et on trouve cette soupe de plastique. Alors, pour le capturer, on traîne un filet à plancton et on récupère ces microparticules, ce qui nous permet de donner des quantités de plastique qu'on trouve dans les océans. Alors, sur certains endroits, on est par exemple à 5 kilos de plastique pour 1 kilo de plancton.
C'est hallucinant. Wow. Et les conséquences, évidemment, pour la nature, pour la biodiversité
On pense que c'est très grave, puisque là, on a un peu interpellé la communauté scientifique, et on leur a dit, venez voir ce qui se passe. Et puis, effectivement, le plastique peut être le support à beaucoup de choses. En l'occurrence, on a appris aujourd'hui même que les méduses, la prolifération de méduses pourrait venir du fait qu'il y ait des plastiques dans les océans. On sait que
Pour être très clair, vous voulez dire qu'en Méditerranée, si on se baigne aujourd'hui autour de Nice, par exemple, s'il y a des méduses, c'est parce qu'il y a trop de déchets plastiques dans la mer.
Alors,
c'est l'explication.
Oui, ça reste encore à démontrer, mais c'est des probabilités. On pense que, on sait que ça peut transporter des virus, des bactéries, des agents pathogènes, donc les maladies peuvent voyager sur les plastiques, ça c'est confirmé. On peut même imaginer qu'un jour le virus Ebola peut être transporté par un plastique, donc c'est plus la contamination de l'homme à l'homme, c'est le plastique qui sert de véhicule.
Maintenant qu'on sait qu'il y a tous ces déchets dans les océans, on peut tenter de les éliminer.
Oui, bien sûr, c'est le message qu'on essaye de faire passer au grand public. Nous, ce qu'il faut faire, c'est couper le robinet. C'est-à-dire que nous, on n'est pas contre le plastique. Le plastique a sa place dans notre société.
Donc, prévention, plutôt.
Voilà. Maintenant, ce qu'on n'a pas fait, notre génération à nous, on n'a pas anticipé son recyclage. Donc,
attendez, quand vous dites notre génération, vous voulez dire les particuliers ou les gros bateaux qui déversent peut-être des sacs plastiques à profusion ?
Non, alors, il faut savoir que 80% de la pollution maritime, elle est terrestre. Hein. On peut habiter à Lyon et polluer
les océans. C'est le sac en plastique qui s'en va ?
Non, c'est le sac plastique qui s'en va. C'est les décharges. Des charges à ciel ouvert, tout ce qu'on a créé.
Jeté dans les rivières.
Voilà, le petit gobelet en plastique qui nous échappe des mains, qu'on ne va pas récupérer, et tout ça, ben forcément, tout finit dans les océans. Alors là, ce qui est dramatique aussi, c'est que ces zones, c'est des zones internationales, et donc il n'y a aucun pays qui fera l'effort d'essayer d'entreprendre quoi que ce soit, parce que ça appartient à personne et à tout le monde à la fois. La seule recommandation, c'est d'essayer de consommer moins de plastique, que chaque ménage réduise son impact plastique au maximum, et ça c'est largement faisable. Et puis après, bien sûr, essayer de trouver des alternatives au plastique. Elles existent, le problème c'est qu'ils ont du mal à percer dans le marché, parce qu'il y a un gros lobby de la plasturgie française qui ne veut pas trop laisser sa place sur le marché, bien sûr.
Bêtement, le plastique c'est construit du pétrole, hein ?
C'est ça.
En mai, le prochain, vous partez ?
Oui, en mai 2015. Donc nos actions, on a trois volets. On a le volet médiatique, faire prendre conscience qu'on est en train de vivre un drame. Il y a un deuxième volet qui est pédagogique, donc intéresser les jeunes à cette pollution et puis leur faire prendre conscience que c'est eux les futurs consommateurs et les futurs décideurs. Et un troisième volet qui est le volet scientifique, qui va peut-être nous permettre de mieux comprendre cette pollution pour après essayer de la combattre. C'est un problème planétaire. Il faut vraiment qu'on nous aide. Donc je lance un petit appel à éventuellement à des mécènes, qu'il faut vraiment venir nous rencontrer pour essayer de nous aider pour monter, continuer ces expéditions. Twitter ou
autre, oui, puis il y a un super site surtout, 7e Continent, le site est tellement
on
bien fait.
On tape directement 7e
Continent, il est très très facile.
7e Continent, on le rappelle, ça fait 6 fois la France, tous les déchets plastiques.
C'est vraiment effrayant, hein, c'est plutôt
excellent,
colère.
Excellent, Agnès, évidemment, il fallait en parler.
Merci surtout Patrick Dexon d'être venu nous voir et nous avoir un petit peu ouvert les yeux.
Merci de m'avoir reçu.
Merci.
RTL Grand Soir.
Juste avant 23h, vous n'y échapperez pas demain quelques-unes, Agnès Bonfillon.
Mais écoutez, La Croix, par exemple, celle de La Croix qui consacre sa une à la journée internationale de lutte contre la corruption. Et le journal a enquêté sur les dispositifs préventifs mis en place dans un nombre d'entreprises françaises, un nombre de plus en plus important. Et puis, nous avons zéro pour les notes. Voilà la manchette de Libération demain. Pas encore de décision prise par la ministre de l'Éducation, mais la proposition du Conseil des programmes fait déjà polémique.
On rappelle les invités demain, ou je vous les apprends ce soir en tout cas. Demain matin à 7h50, c'est Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui sera l'invité de Jean-Michel Apathy. Et pour Yves Calvi, à 8h17, l'invité du jour, l'homme du jour sera Vincent Bolloré, qui veut absolument déployer un maximum ses voitures. Il y aura 16 000 points de charge publique en France. On n'échappera pas demain, j'espère aussi. Une pensée pour John Lennon.
Oui, puisque nous serons le 9 décembre, le 9 décembre 1980, il y a 34 ans, la France se réveillait sous le choc, puisque, avec le décalage horaire, le 8 décembre 1980, eh bien, c'est la date à laquelle John Lennon a été assassiné par Mark David Chapman.
Imagine John Lennon, George Lang, juste après les infos, auparavant, la météo.
Rebonsoir Louis Baudin.
RTL Grand Soir.
Rebonsoir. Oui, on a encore des averses ce soir, de pluie ou de neige d'ailleurs à très basse altitude sur les frontières de l'Est, mais tout cela va nous quitter en cours de nuit, avec demain matin peut-être encore quelques averses de neige jusqu'en plaine dans les régions de l'Est, mais progressivement retour d'un temps sec. Alors temps sec, ça ne veut pas dire forcément très ensoleillé, au contraire, on a encore beaucoup de grisailles dans la moitié Est, principalement entre le Massif central et la Lorraine, de la région Rhône-Alpes à l'Alsace. En revanche, dans l'Ouest, dans les autres régions, on retrouvera un temps plus lumineux, plus ensoleillé, notamment en cours d'après-midi. Beaucoup de soleil également en Méditerranée, mais avec du vent, puisque Mistral et Tramontane atteindront les 100 voire 110 km/h dans la basse vallée du Rhône ou encore autour du golfe du Lion. Peut-être quelques averses tout de même sur la Corse. Et puis arriver en fin de journée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest, elle apportera quelques nuages, voire quelques pluies sur la Bretagne. Les températures, elles baisseront à nouveau. Demain matin, moins 2 à 2 degrés seulement dans la plupart des régions. Puis l'après-midi, 2 à 6 degrés du centre au nord et au nord-est, 6 à 10 degrés dans l'ouest et dans le sud, et localement encore 14 à 15 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup, Louis Baudin. À demain, Agnès.
À demain.